Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes sur France 24 et Radio France Internationale pour retrouver notre grand invité. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici à Paris le vice-président de la Commission européenne. Il s'agit d'un homme politique slovaque issu du Parti social-démocrate, un parti aujourd'hui au pouvoir avec le Premier ministre très controversé Robert Fico. On en parlera bien sûr. Maroš Šefčovič, en ce qui vous concerne, bonjour. Je rappelle que vous en êtes quand même, en ce qui vous concerne, à votre troisième mandat de commissaire européen dans les commissions Barroso, Juncker et maintenant von der Leyen. Vous êtes le plus ancien, finalement, dans l'exécutif européen. Et vous allez peut-être même briguer un quatrième mandat. On verra,
on verra
ce que vous nous en dites. Mais pour l'instant, votre barque est déjà bien chargée, car vous étiez en charge des relations interinstitutionnelles. Et votre portefeuille s'est encore étoffé après le départ de certains de vos collègues qui font campagne pour les élections européennes. Et notamment, vous devez porter l'énorme et très discuté pacte vert, donc la transition écologique, la colère du monde agricole, et les résistances des industriels ont contraint quand même votre commission à de nombreux ajustements. Est-ce que pour vous c'est une évolution ou est-ce que c'est une marche en arrière par rapport à des ambitions écologiques ?
Concernant le pacte vert, c'est vrai que maintenant nous sommes en discussion très intense avec les industriels, bien sûr, avec le monde agricole européen, parce que nous avons terminé de bâtir notre cadre pour le pacte vert et maintenant nous sommes en étape qui est, je crois, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile parce que on est en train de mise en œuvre le pacte vert. Ça veut dire qu'on discute comment on peut faire cette mise en œuvre d'une manière qui sera juste, qui sera efficace, à l'écoute aussi de nos collègues industriels, des collègues agricoles, qu'il y a beaucoup de questions concernant la bureaucratie, concernant la nécessité de soutien financier et politique pour le développement économique en Europe.
Alors parlons concrètement, les eurodéputés ont approuvé un assouplissement de la politique agricole commune. On supprime complètement l'obligation de laisser 4% des terres arables en jachère. L'obligation de rotation des cultures peut être remplacée par une simple diversification. En cas d'épisode climatique extrême, des dérogations sont possibles. Les grandes organisations agricoles ont gagné en quelque sorte leur bataille, mais est-ce qu'elle participe encore à minima à la dépollution de la planète ?
Cette décision du Parlement européen, qui était basée sur les propositions de la Commission européenne, le soutien des pays membres, je crois, c'est une très belle démonstration qu'on est vraiment à l'écoute des préoccupations de nos agriculteurs. Oui, parce que c'était clair que nous avons eu 3-4 ans qui étaient très difficiles aussi pour nos agriculteurs parce que on a la crise de Covid, après ça on a des guerres qui sont très proches de l'Union européenne et en même temps nos agriculteurs ont perdu presque 20 milliards d'euros seulement dans le domaine de céréales. C'est pourquoi c'était absolument nécessaire de parler avec eux et de chercher les flexibilisations qu'on a trouvées. Et on espère que c'est une preuve qu'on veut travailler étroitement avec nos agriculteurs et nous avons aussi entamé le dialogue stratégique pour le futur des politiques agricoles européennes. J'espère que toutes ces discussions seront complétées en août pour présenter les recommandations pour la prochaine Commission européenne, pour politique agricole, mais aussi pour la prochaine perspective financière.
Oui, mais par exemple, sur la trentaine de textes que compte votre stratégie qui s'appelle « De la ferme à la table », très peu ont abouti, une quinzaine à peine. Et le 6 février dernier, la présidente von der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé le retrait du texte sur la baisse de 50% de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Pourquoi ce retrait ?
Je crois parce qu'on a senti que dans les conditions que nous avons maintenant, qu'il y a les bases de pouvoir achat, que aussi la pression économique sont assez acharnées pour tout le monde, et spécialement pour nos agriculteurs, qu'on doit chercher un équilibre, comment on peut pousser pour les objectifs vert et en même temps pour garder notre compétitivité aussi dans le secteur des agriculteurs. Et je crois que ce dialogue stratégique que nous avons entamé il y a quelques mois peut offrir aussi les solutions, les recommandations pour le futur. Parce que quand je parle avec les agriculteurs, je peux vous assurer qu'ils sont très bien conscients que le réchauffement climatique est ici.
Ils en sont victimes d'ailleurs.
Ils sont victimes à cause d'inondations, à cause d'incendies, à cause de changements climatiques. Et je sais qu'ils préfèrent d'être une partie des solutions. Mais on doit chercher cette solution ensemble dans cette discussion qui sont très intenses, très étroites avec les agriculteurs à Bruxelles, mais je crois dans chaque pays membre.
Alors, par exemple, il y a un autre dossier qui est assez sensible, c'est celui de la restauration de la nature qui est destiné à améliorer les écosystèmes terrestres et marins. Ce projet a suscité de forts débats qui ont conduit à un affaiblissement du texte. Les États membres traînent des pieds sur ce texte. Est-ce que vous voulez finir cette mandature, finalement, avant les élections européennes, avec un bilan un peu mitigé sur la transition écologique ? Est-ce que c'est le message ?
On travaille étroitement avec la présidence belge, parce que c'est vrai que ce dossier, c'est pas facile, mais je crois que nous avons introduit beaucoup de flexibilité dans ces textes. On base le grand parti de cette proposition sur une base volontaire. Ça veut dire que chaque pays doit avoir assez d'espace politique pour trouver un chemin, comment on va restaurer la nature dans chaque de nos pays. Et je crois que c'est absolument clair que nous avons une crise de biodiversité aussi. C'est pourquoi on espère qu'avec la présidence belge, on peut trouver une solution, parce que c'est vrai, maintenant, c'est moitié à moitié. Si on parle de nos pays membres, et bien sûr, on préfère de clôturer ces dossiers avec un vote favorable.
Alors, c'est quand même la droite de l'hémicycle politique. Je rappelais, Maro Sefcovic, que vous êtes social-démocrate, mais c'est la droite qui a finalement, qui s'en est pris aux mesures écologiques de la politique agricole commune et au pacte vert. L'extrême droite, bien sûr, mais aussi la grande droite du Parti populaire européen, dont Ursula von der Leyen est la chef de file candidate pour les élections européennes de juin. Est-ce que ça ne la met pas un petit peu dans une situation ambiguë par rapport à ce pacte vert ?
C'est pourquoi maintenant nous avons une discussion approfondie à l'Union européenne. Je crois que le sujet concernant le pacte vert seront les points de discussion pendant les campagnes préélectorales, parce que je crois que vous avez raison. Ce sont les questions qui sont très importantes, très, très sensibles. Et je crois que le prochain Parlement européen, la prochaine Commission européenne va travailler sur bâtir un consensus sur les dossiers qui sont très importants, mais en même temps, on a besoin de soutien public pour cette transition écologique qui n'est pas facile. Je suis absolument conscient que ce n'est pas facile pour nos citoyens, pour nos agriculteurs et aussi pour notre industrie. Et c'est pourquoi j'ai commencé, je peux dire, à réactiver tous les types de dialogues, quelque chose comme le dialogue vert avec les citoyens, les ONG, mais aussi le dialogue industriel avec le secteur qui sont plus impactés par la transition verte. Et je crois que c'est très important, parce qu'on reçoit beaucoup, pas seulement informations, mais recommandations, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble d'une manière plus efficace, plus agréable, plus équitable, parce que cette transition verte doit être juste, doit être équitable. En même temps, on doit aussi respecter tous les défis que nous avons dans le domaine de compétitivité. C'est pourquoi c'est un sujet assez complexe et ça mérite une discussion préélectorale.
Alors, côté industrie, d'ailleurs, il y a un gros lobbying contre les fameuses normes anti-pollution. Vous avez promis, vous, puisque vous les avez rencontrés en tant que vice-président de la Commission, aux industriels, la simplification du cadre réglementaire, de faire baisser de 25% les exigences de reporting, c'est-à-dire de compte-rendu finalement de pollution, notamment pour les industries, mais aussi les PME. Et puis, vous promettez une énergie moins chère, parce que c'est le cas en Chine, par exemple, et aux États-Unis. Comment une énergie moins chère ?
Comme je dis, nous avons déjà eu 9 dialogues avec les secteurs différents. La priorité principale de nos industriels est basée sur le prix de l'énergie. Parce qu'on m'a dit que c'est bien, très bien que maintenant le marché de l'énergie s'est stabilisé parce que nous sommes maintenant sur le même niveau de prix de l'énergie comme auparavant ou comme avant
la guerre en Ukraine.
Mais j'accepte les arguments que c'est pas assez parce qu'on doit se comparer avec le prix d'énergie aux États-Unis et en Chine. Et c'est pourquoi je crois que ce sera très, très important de trouver une solution là, de rechercher toutes les possibilités qu'on a en Europe, parce que c'est un facteur très, très important, spécialement pour notre industrie lourde, mais aussi pour clean tech et green tech. Et simplement, on doit se focaliser sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec la structure des prix énergétiques en
Europe? Et pas toujours aligné sur le gaz, par exemple, faire attention à comment on la produit?
Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% sur le prix de commodités. L'autre tiers, ce sont les coûts de transmission. Et le dernier 30% pour les taxes. Et c'est pourquoi je crois qu'on doit vraiment avoir une discussion politique.
Vous dites nationale, oui. Aussi sur le prix de l'énergie.
Et l'autre chose qui est aussi très, très important, qu'on doit vraiment améliorer nos réseaux énergétiques parce qu'on est maintenant en situation quand on perd beaucoup d'argent parce que si vous avez l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, très souvent, on ne peut pas utiliser cette énergie parce que nos réseaux que nous avons maintenant ne sont pas assez puissants pour transmettre cette énergie vers les consommateurs. C'est pourquoi je proposais de travailler sur l'amélioration de nos réseaux, pas seulement pour les prochaines 10 années, mais simplement se préparer pour 2050, quand on espère d'être climatiquement neutre.
Neutre, d'accord. Alors, Maro Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, vous connaissez bien notre langue, on le voit, hein, et notre pays, sans doute. Vous avez remarqué que 7 ans après le premier discours de la Sorbonne, le président français, Emmanuel Macron, a tenu un discours fleuve de presque 2 heures sur l'Europe, à nouveau, cette semaine, à quelques semaines des élections européennes. Il a dressé un portrait alarmiste de l'Union européenne, tout en plaidant pour une Europe puissance. Les explications tout de suite de Noémie Roche.
L'Europe est dans un moment critique. Elle court le risque d'être reléguée face à la compétition des autres grandes puissances. Devant 500 invités, ambassadeurs des pays de l'Union européenne, étudiants, chercheurs et gouvernements au complet, le président de la République a appelé les 27 à un sursaut d'ici 2030.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas.
Et pour cela, Emmanuel Macron appelle l'Europe à renforcer sa défense au sein de l'OTAN. Dans un contexte de guerre en Ukraine, il parle de bouclier antimissile et plaide pour un emprunt européen pour investir dans l'armement. Sur le plan économique, le président évoque un choc d'investissement commun. Objectif : doubler la capacité financière de l'Union et ainsi faire face aux défis climatiques, numériques et industriels. Il appelle aussi à réviser la politique commerciale européenne face à la concurrence de la Chine et des États-Unis, qui, d'après lui, ne respecte plus les règles du commerce. Des règles et des valeurs européennes bafouées aussi par les nationalistes, selon le président.
Ils nous ont tous habitués à un discours qui est le 8 mai. Qui est dire, j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple. Mais je le ferai en ne respectant pas les règles. Mais je le ferai, au fond, en bafouant ses fondements. Au fond, ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et il dit ça va marcher.
Un discours qui sonne comme une entrée en campagne pour le chef de l'État, à 6 semaines des élections européennes, et alors que son camp est largement distancé par l'extrême droite dans les sondages.
Discours du 25 avril, discours fondateur Sorbonne 2. Est-ce que vous croyez, comme le président français, que l'Europe est mortelle? Ce sont ces mots, l'Europe est mortelle, comme les civilisations sont mortelles, et notre Europe est mortelle.
Je crois que nous sommes vraiment en situation assez précaire. D'un côté, on a démontré une résilience dans les dernières 4 ans, risque Covid, l'inflation élevée, le problème et défi de l'énergie et en plus de guerres qui sont très très proches de nous. Et bien sûr, nous sommes beaucoup plus impactés que Chine ou les États-Unis. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec le président qu'on doit vraiment se cibler sur les prochains 5 ans parce qu'on a les tâches énormes. On doit investir, on doit élever notre compétitivité. Et je suis tout à fait d'accord qu'on doit aussi pousser pour des conditions de concurrence équitable vis-à-vis la Chine et vis-à-vis les États-Unis parce qu'on souffre beaucoup à cause des subventions chinoises, mais aussi à cause de politiques, de taxes aux États-Unis. Et c'est pourquoi je crois qu'on doit ajuster comment on fait le commerce, comment on prend les décisions à l'Union européenne, simplement pour être plus vite, plus rapide et plus décisionnel.
Alors, Maro Sefcovic, votre pays, la Slovaquie, a été averti par la Commission européenne, en particulier le gouvernement slovaque du populiste Robert Fico, on le disait, qu'elle suspendait l'argent du plan de relance post-Covid, 3,5 milliards, à cause d'une modification du droit pénal sur les délais de prescription et la suppression du bureau du procureur spécial sur la corruption, qui enquêtait d'ailleurs sur des proches du pouvoir. Comment sortir de l'impasse pour votre pays, la Slovaquie ?
On a eu les 3 à 4 ans qui étaient très, très difficiles pour mon pays. On a eu le changement de gouvernement. On a eu, pendant cette dernière gouvernement, le déficit qui était élevé de 0,2% jusqu'au presque 8%. Ce n'est pas facile pour le nouveau gouvernement de redémarrer l'économie, de redémarrer la société. On a eu aussi beaucoup de problèmes dans le système de justice. Maintenant, la situation est que la Slovaquie, le gouvernement slovaque est en intense discussion, échange de vues et négociations avec la Commission européenne. Mon collègue vice-président Věra Jourová a discuté sur tous les sujets concernant la Slovaquie.
Y compris la liberté de la presse, d'ailleurs, avec un projet controversé aussi de contrôle de la télé d'État.
Oui, et je crois que c'était très important que mon collègue a dit clairement hier que la Commission européenne est intéressée à résoudre les problèmes et pas de pénaliser la Slovaquie par l'arrêt de soutien financier. So, j'espère, je suis convaincu qu'on va continuer à avoir cette discussion entre la Commission et le gouvernement slovaque et qu'on va trouver une solution qui sera bien sûr acceptable.
D'autant que votre avenir politique en dépend peut-être, Maro Sefcovic. Est-ce que vous souhaitez obtenir un 4e mandat de 5 ans comme commissaire européen?
On verra, je crois, après les élections européennes, parce que vous avez raison, on doit obtenir la nomination du gouvernement slovaque. Et en même temps, on doit être acceptable pour le chef de la Commission européenne. Après ça, on a les auditions au Parlement européen qui ne sont pas faciles du tout. Mais si j'aurai la possibilité de continuer de travailler pour la compétitivité de l'Europe dans le domaine de l'énergie ou de l'industrie, je suis disponible, je suis prêt à servir l'Europe.
Merci à vous, Maro Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez sur nos antennes, l'actualité continue.